Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Aujourd'hui, nous parlerons de l'OMC avec Suzanne Georges. Là, j'avoue, cette émission est partie d'un énervement. Début novembre s'est réunie au Qatar la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC. Que s'est-il décidé là-bas? Mystère ou presque? Les médias généralistes n'en ont presque rien dit. Ont-ils davantage parlé des manifestations qui ont lieu dans toutes les grandes villes européennes le samedi 10 novembre, à l'appel d'attaque notamment? Pas plus. Ça fait beaucoup de silence tout ça. Alors je suis allée voir Suzanne Georges pour qu'elle nous explique au moins à nous ce qu'est l'OMC, ce que décide cette organisation et quelles seront les incidences de ces décisions. Suzanne Georges, vous le savez peut-être, c'est la vice-présidente du mouvement ATTAC, mouvement pas franchement favorable à l'OMC. Mais bon, même si on n'est pas d'accord avec ATTAC, cette émission n'a qu'un but, vous inciter à vous renseigner sur l'OMC, vous renseigner sur ce qui s'y décide. Libre à chacun, après, de se faire une opinion. Je suis donc allée voir Suzanne Georges chez elle. On a pris le thé autour d'une table qui, vous le verrez, grinçait un petit peu. Et la première question que je lui ai posée, c'était de nous rappeler l'OMC.
L'OMC, ça veut dire Organisation Mondiale du Commerce. C'est jeune. Ça existe depuis le 1er janvier 1995. C'est l'organisation qui suit un autre qui était, elle, créée après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait le GATT, ça veut dire l'accord général sur les tarifs et le commerce. Un tarif, c'est une taxe à la frontière pour rendre plus cher le produit du voisin qui est en concurrence avec les produits nationaux. Donc, le GATT s'occupait de faire baisser ces tarifs, ces taxes à la frontière, avec l'idée que tout le monde devient plus prospère quand il y a un flux libre de biens. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, parce que il faut se rappeler aussi que la Deuxième Guerre mondiale était causée en partie par le fait que chacun essayait de vendre ses produits sans laisser les produits d'autrui pénétrer sur son territoire national, ce qui évidemment peut marcher peut-être une fois, deux fois, mais pas quand c'est tous les pays qui le font. Et c'était certainement l'une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Alors après cette guerre, les gens se sont dit qu'il faut quand même réorganiser le monde, et le GATT avait très bien fait son boulot sur une cinquantaine d'années. Et les tarifs douaniers qui étaient de l'ordre de 40-50% ont été réduits à 4-5%. Donc très bien, le GATT a parfaitement fait ce qu'il avait à faire. Mais vers le milieu des années 80, il y a eu beaucoup d'industries, en particulier aux États-Unis, et qui se sont dit, mais nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Et c'était des industries de services, c'était les banques, les assurances, les grandes maisons de consulting, de conseil, des grandes maisons d'avocats internationaux, etc. Et ils se sont dit, on veut, nous aussi, notre accord pour qu'on puisse faire notre expansion dans le monde. Et à ce moment-là, on a commencé, au sein du GATT, donc de cette organisation préexistante, un nouveau cycle, on appelle ça des rounds, du mot anglais pour cycle, et on a commencé à discuter de comment on pourrait mettre beaucoup d'autres choses sous ce régime de liberté de commerce. Alors, on s'est dit non seulement les produits industriels avec des taxes à la frontière, mais on va s'occuper à la fois des services, on va en parler parce que c'est une énorme catégorie, c'est 160 au moins différentes catégories, comme dit le grand magazine anglais The Economist, un service, c'est tout ce que si vous pouvez pas laisser tomber sur votre pied, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'intangible. Et puis, mais aussi l'agriculture, mais aussi cette Organisation mondiale du commerce, cette OMC, a commencé à dire, mais on va pas s'occuper seulement des frontières, on va s'occuper aussi de ce que les pays font chez eux, de ce que les gouvernements font à l'intérieur de leurs frontières. Est-ce qu'ils mettent aussi des barrières non tarifaires? Est-ce qu'ils mettent des barrières qui sont des normes ou des règlements ou des lois qui, en fait, excluent les produits ou les services d'autres pays? Et on a mis en place aussi une sorte de tribunal qui s'appelle l'organe de règlement des différends, et quand il y a un litige entre deux pays, c'est ce tribunal qui décide qui a raison, qui a tort. Et ces décisions sont contraignantes, on peut les contester, on peut faire appel, mais une fois l'appel fait, eh bien, si vous perdez, cet organe de règlement des différends autorise celui qui a gagné à sanctionner vos produits. C'est très contraignant. Ça coûte très cher.
C'est ce qui s'est passé avec le Roquefort.
C'est ce qui s'est passé avec le Roquefort, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Roquefort? C'est un cas très intéressant. La France et d'autres pays européens avaient dit aux Américains, nous ne voulons pas importer votre bœuf aux hormones. Vous avez du bœuf élevé aux hormones. À notre avis, cela peut être nocif pour la santé humaine et nous n'en voulons pas. Les États-Unis ont répondu le plus légalement du monde sous l'OMC. Ils ont dit, mais comment donc? C'est du bœuf comme un autre bœuf. Vous ne pouvez pas distinguer le bœuf élevé à l'herbe ou avec des fourrages ou que sais-je, du bœuf qui reçoit aussi des hormones, et vous n'avez absolument pas porté la preuve que ça peut être dangereux. Alors, notez bien que ce n'était pas aux Américains de prouver l'innocuité de leur bœuf. C'était à nous, Européens, de prouver le contraire. Bon, ça s'appelle le principe de précaution, et à notre avis, c'est vraiment dans le mauvais sens. Il faudrait que ce soit à l'exportateur de prouver que son produit est sain. Ok, bon, mais ce n'est pas le cas. Donc, l'ORD a dit aux Européens, effectivement, vous n'avez pas apporté la preuve, et donc, en appel, parce que la décision a été confirmée, nous allons autoriser les États-Unis et le Canada, d'ailleurs, à sanctionner vos produits, à les taxer à hauteur de 116 millions de dollars par an. Et c'est ce qui se fait depuis, et chaque année, où on continue à refuser le bœuf, chaque année, on va payer. Alors, comment on prend cet argent? On ne dit pas à la France ou à l'Allemagne, payer 116 millions de dollars et puis basta. Non, on dit, on va taxer vos produits et on va essayer de faire le plus mal possible pour que vous pensiez à rectifier cette histoire. Alors, on a choisi pour la France le Roquefort, la moutarde, je crois, le foie gras. Et puis les États-Unis peuvent changer ces produits aussi tous les 6 mois, s'ils veulent. Mais c'est autre chose pour le Danemark, c'est autre chose pour l'Allemagne, c'est les truffes blanches pour l'Italie, enfin bon. Alors c'est parfaitement légal sous le régime de l'OMC.
Tout à l'heure, donc, nous étions avec Suzanne Georges et à l'écouter, on avait vraiment l'impression que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, était vraiment tout à fait tentaculaire, que ça recouvrait vraiment beaucoup de choses. Mais je me suis dit, c'est pas bien grave, tout ça, finalement, la France, par la voie de l'Europe, n'aura qu'à signer ce qui lui plaît et refuser ce avec quoi elle est en désaccord, non? C'est en tout cas ce que j'ai demandé à Suzanne Georges.
Alors, avec l'OMC, quand vous faites partie de cette organisation, vous devez signer l'ensemble. Vous ne pouvez pas dire, moi je veux bien de l'accord sur l'agriculture, mais je ne veux pas de celui sur les services, ou oui j'accepte les différentes catégories, mais je ne veux pas être soumis à ce tribunal, à cet organe de règlement des différends. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est à prendre ou à laisser. C'est un ensemble. Alors, le plus grand nombre de pays ont voulu en faire partie en disant il vaut mieux être dedans pour pouvoir influencer ce qui se passe là que d'être dehors. Et c'est comme ça qu'on a assisté récemment à l'entrée de la Chine qui négociait son entrée depuis de très longues années et devait ouvrir beaucoup de marchés, notamment ils ont eu des bagarres sur les assurances, etc., parce que en partie c'est sur le commerce, mais c'est aussi beaucoup sur l'investissement. Ça porte beaucoup sur l'investissement et sur la liberté d'investir. Et c'est ça qui intéresse les transnationales. Et ce sont les transnationales, les très grandes firmes, qui sont les forces motrices derrière l'OMC. C'est elles qui ont voulu élargir à toutes ces autres catégories, les services, l'agriculture, etc. Et c'est elles qui continuent en coulisses à dire aux négociateurs des États ce qu'elles désirent, et elles l'obtiennent le plus souvent.
Justement, c'est qui les négociateurs ?
Les négociateurs, ce sont des fonctionnaires, ce sont pour l'Europe, c'est Pascal Lamy qui représente les 15 pays de l'Union européenne.
Mais qui a été mandaté par les gouvernements ? Par les députés,
Non, pas par les députés. Les députés, malheureusement, sont pour rien dans cette affaire. Non, les gouvernements de l'Europe ont des réunions et délèguent des fonctionnaires qui travaillent ensemble dans un comité qui s'appelle le comité 133, d'après l'article du traité d'Amsterdam qui traite des affaires commerciales et des négociations internationales. Et ces fonctionnaires préparent les décisions, et puis c'est soumis au ministre du commerce des 15 qui se rencontrent périodiquement, et puis ils disent ok, alors pour certaines choses nous avons un pouvoir de veto, pour l'éducation, la culture et la santé, heureusement nous avons pu, et c'était une bagarre, nous avons pu sauver la règle de l'unanimité sur ces questions là parce que sur beaucoup d'autres questions de négociation commerciale, c'est ce qu'on appelle la majorité qualifiée. C'est un système très compliqué. Chaque pays a un nombre de votes selon sa population, etc. Et pour avoir la majorité qualifiée, il faut... s'il n'y a pas vraiment l'ensemble, il faut 4 ou 5 pays selon les cas pour battre... une question sur la majorité qualifiée. Alors, heureusement, il reste encore un peu ce garde-fou, mais autrement, M. Lamy, qui se dit socialiste, est en fait un libéral, tout à fait pour la liberté du commerce dans tous les domaines, et comme la plupart des gouvernements européens sont exactement dans le même cas, c'est très difficile de freiner l'avancée de ces négociations que nous trouvons, pour notre part, vont mettre sérieusement en danger toute une série d'acquis, notamment dans le domaine des services publics, et vont limiter dangereusement la capacité des gouvernements à protéger leurs citoyens sur le plan de la santé, et de protéger l'environnement, parce que les règles de l'OMC mettent réellement les règles du commerce et de la liberté du commerce au-dessus de tout le reste. Il n'y a pas de droit de l'homme qui vaille, il n'y a pas d'accord sur l'environnement qui impose à l'ORD, à cet organe de règlement des différends, sa loi. Non, la loi commerciale se fait séparément de tout le reste du droit international. Nous trouvons ça très très dangereux.
J'étais toujours un petit peu inquiète par rapport à tout ce que me pouvait me dire Suzanne Georges, et je lui ai posé une question qui consistait à savoir quel était le pouvoir ou la place que pouvaient prendre les citoyens européens par rapport aux agissements de l'OMC.
Les Européens ont accepté beaucoup de choses et il y a assez peu de contrôle des citoyens européens sur ce que fait l'Europe. On a de temps à autre la possibilité d'approuver ou non un traité, mais vraiment ce que fait l'Europe, le Parlement européen a très peu de pouvoir, n'a pas l'initiative législative et a seulement le pouvoir de prendre ou de laisser un accord comme ça. C'est même pas, je suis pas juriste, mais je crois qu'on n'a même pas besoin de l'approbation du Parlement du moment où les ministres des 15 ont approuvé. Alors, ce qui est choquant dans cette affaire de l'OMC, c'est que les parlements sont très peu informés. Quand on a ratifié l'accord qui donnait naissance à l'OMC, c'était en 94, c'était sous le gouvernement Balladur, je crois, et le parlement a eu le texte, qui est un immense texte, ça couvre ces 24 ou 25 différents accords, il y a des milliers de pages d'annexes, 600 pages de texte au moins, serrées, hein, et puis compliquées. Et ils ont eu ça un jeudi soir, et ils l'ont voté le mardi suivant. Alors, évidemment, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Il y a une histoire drôle à ce sujet, parce qu'aux États-Unis, quand les membres du Congrès ont eu le même accord, une organisation avec laquelle nous travaillons a proposé 10 000 dollars pour l'œuvre charitable au choix de tout membre du Congrès qui pouvait jurer sur l'honneur qu'il avait lu l'accord, qui pouvait répondre à 10 questions simples à ce sujet, et puis il aurait les 10 000 dollars pour la Ligue contre le cancer ou quoi que ce soit. Et personne ne s'est présenté. Et puis on a remis la date d'approbation de l'accord. Alors finalement, il y a un sénateur républicain qui s'est présenté, qui avait lu l'accord, qui a répondu aux questions, et puis qui a appelé une conférence de presse et qui a dit « J'ai voté pour tous les accords de libre-échange jusqu'ici et je suis pour le libre-échange, mais j'ai lu ce traité et je suis horrifié de ce que j'ai trouvé dedans et je vais voter contre. » Alors le vote aux États-Unis était plus serré qu'en France ou dans d'autres pays, mais ça a quand même passé. Bon, je crois que la raison en est que les citoyens ont été mal organisés à ce propos, n'étaient pas informés par leur gouvernement de ce qui se négociait, que ça paraissait très lointain, très technique, très compliqué. Et c'est vrai, c'est un peu compliqué. Il faut prendre la peine de comprendre ce qu'il y a dedans de manière à pouvoir le vulgariser un petit peu, parce que ces textes, je vous assure, c'est pas un parti de plaisir de lire ces textes. Alors, je ne blâme pas les députés, parce que même les commissions idoines ne sont pas informées. Ça se passe à un niveau de fonctionnaires, de gens qui sont pas non plus élus, et on se retrouve devant un accord qui est un accord cadre, qui n'est pas un traité achevé, et qui est une sorte de forum permanent de négociation. Alors, en principe, nous sommes là dans un cycle qui ne va jamais prendre fin, et on a décidé à Doha, à cette réunion ministérielle qui est l'instance suprême de l'OMC, c'est tous les deux ans que les ministres se réunissent, et là, ils ont décidé que dans deux ans, ils vont aussi ajouter les marchés publics, les investissements, ceux qui ne sont pas déjà couverts, toutes les règles douanières pour qu'on harmonise toutes les politiques commercial du monde. Enfin, on va encore ajouter des choses et on va continuer à négocier sur les services, et l'idée c'est que on doit toujours aller de l'avant. C'est dans un des articles qui dit tout simplement que c'est un cadre de négociation qui doit aller toujours, je cite, dans le sens d'une libéralisation plus grande. Alors, on ne voit pas la fin de tout ça. L'utopie, pour eux, ce serait un monde où il n'y aurait aucune barrière sur rien, y compris les activités humaines les plus importantes pour les citoyens, et tout ça doit devenir marchandise. C'est pour cela que nous sommes vigilants.
Tout cela n'est pas très rassurant, tellement pas rassurant que cela mérite bien une seconde émission, non ? Nous retrouverons donc Suzanne Georges la semaine prochaine pour évoquer les incidences des décisions de l'OMC sur les services publics notamment. En attendant, comment trouver des renseignements sur l'OMC ? En tapant OMC dans votre moteur de recherche, en allant sur le site d'attaque www.attaque.org ou en vous achetant le petit livre très pédagogique et pas cher que Suzanne Georges a consacré à l'OMC, livre qui s'intitule « Remettre l'OMC à sa place » et qui est publié aux éditions Mille et une nuits, pas cher, 10 francs. Des sous et des hommes, c'est terminé pour cette semaine. Vous pouvez nous contacter sur notre site www.aligrefm.org ou nous écrire émission des sous et des hommes, 42 rue de Montreuil, 75 011, Paris. À la semaine prochaine donc, à nouveau avec Suzanne Georges.